Tu rêves d'une vie nomade en famille? Je te révèle ici les 7 étapes pour réussir ton départ. Reste avec moi. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Changer de vie et voyager. Je suis Jonathan et dans cet épisode, je te parle des 7 étapes cruciales pour réussir son départ en famille. Vu que c'est mon premier podcast, je te prie d'être un peu indulgent et voilà, je fais de mon mieux et j'espère que ça te plaira. Alors on y va. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer et de partir? Franchement. Eh oui, beaucoup en rêvent, mais peu le concrétisent. C'est vrai qu'il faut être un petit peu fou pour aller jusqu'au bout. Mais rassure-toi, tu n'es pas le seul fou ici. Toutes les familles ou toutes les personnes qu'on a rencontrées qui ont fait ce choix de vie ne regrettent rien et sont parties, comme nous, comme toi d'ailleurs, de cette idée un peu folle que tu peux vivre autrement. Tu peux voyager, tu peux, si tu veux, tu peux. Beaucoup de personnes te diront que c'est impossible, que c'est trop compliqué ou qu'il faut être millionnaire pour ça, mais en fait non, ce n'est pas le cas. Bien entendu, changer de vie et voyager ne se fait pas sur un coup de tête. Tu ne pars pas du jour au lendemain, à moins que tu veuilles que ça dure qu'un week-end. Mais si c'est vraiment pour changer de vie sur la durée, il te faudra un peu de patience et surtout un plan. C'est donc pour ça que je te partage dans ce podcast les 7 étapes cruciales pour réussir son départ en famille. Point numéro 1, le déclic. C'est le moment où le rêve devient un projet. Le premier point, c'est le déclic. C'est vraiment ce moment-là où tu te dis que ton rêve va devenir un projet et non plus un simple rêve qu'on y pense de temps en temps. Non, non, à partir de là, tu vas tout faire pour que ton rêve devienne une réalité. Et en fait, tu t'en rends pas vraiment compte, mais c'est à partir de là que ton voyage commence. C'est là le vrai départ, parce que c'est là où tu as décidé que non, tu ne vas pas suivre la voie normale et que tu vas vivre ta vie. Bon, bien sûr, un point crucial aussi, c'est que tu partes en couple ou en famille, il faut que ce rêve soit partagé, ou que le projet soit co-construit, sinon ça va être compliqué. Étant en bateau, on a rencontré pas mal d'hommes seuls, qui naviguent seuls, parce que c'était leur rêve, mais pas celui de leur épouse. Du coup, ils sont partis seuls. Alors, bon, c'est un choix, mais si tu souhaites partir en famille, il vaut mieux que ta famille vienne avec. Donc à cette étape, les choses à faire, c'est en parler ouvertement en couple. Et bon, bien sûr, si tu as des enfants avec tes enfants, il faut qu'ils soient aussi inclus dans ce projet, parce que c'est un sacré projet de vie. Il faut, d'un autre côté, lister les envies, les craintes et les besoins de chacun, pour que tout le monde soit comblé par cela. Et je te conseille de commencer un petit carnet de bord ou un fichier partagé pour déposer toutes les idées. Et tu verras que ça peut t'aider à vraiment y croire et à te faire avancer. Étape numéro 2, définir son projet de vie nomade en famille. Parce que partir, oui, d'accord, mais pourquoi faire? Pour combien de temps? Pour aller où? Comment? Quelles sont mes limites? Les limites de mes enfants, de ma compagne? Tout ça, pour une vie nomade en couple ou en famille, ce n'est pas juste un copier-coller d'un compte Instagram de voyageur. Pourquoi? Parce que c'est ton aventure à toi, c'est ta vie, c'est à toi de la prendre en main. C'est à toi de définir les contours et d'en faire ce que tu en rêves vraiment. Les possibilités aussi ici sont très, très grandes, hein. Tu peux partir en camping-car, en van, en voilier, soit à pied avec sac à dos, ou à dos d'âne, ou d'éléphant, ou que sais-je, en tapis volant, à toi de voir. Mais tout ce qui compte, c'est de savoir pourquoi tu le fais, et ce que tu veux que ta famille en retire. Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Pour nous, tu vois, c'était de pouvoir vivre, vraiment de prendre le temps, de voir le monde et surtout voir nos enfants grandir. Parce que dans la vie qu'on mène, où c'est métro, boulot, dodo, tu fais que de courir. Tu vois tes enfants le matin, tu les amènes à l'école, tu les récupères le soir, tu manges, tu les douches, tu les mets au lit. Et hop, ça recommence tous les jours. Il n'y a que le week-end, mais sauf que le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les tâches que tu ne peux pas faire la semaine. Du coup, en fait, tu ne les vois pas grandir. Et nous, c'était vraiment ça qui nous a motivés, c'était qu'on voulait profiter de nos enfants, les voir grandir. Et cette période de l'enfance, elle est qu'une fois dans une vie. Donc, on souhaitait vraiment construire une relation différente avec nos enfants. Parce que tu vois, quand j'étais petit, ma mère était au foyer, donc elle s'occupait de mes frères et sœurs et moi. Mais mon père travaillait, il partait très tôt le matin, il revenait tard le soir, et le week-end, il fallait s'occuper de la maison, des courses et de tout ça. Du coup, au final, je me suis rendu compte, en étant adulte, que, en fait, je ne connaissais pas plus que ça mon père. Je l'aime beaucoup, mais je ne le connais pas. Du coup, ce n'était pas ce que je voulais créer avec mes enfants. Je voulais vraiment avoir une autre relation. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là maintenant, moi ce que je te conseille, c'est de vous asseoir en couple, en famille, et de se poser ces questions-là. Quelles sont les motivations profondes? La liberté, le temps en famille, la découverte? Quelle durée envisage-t-on? 1 an, 3 ans, plus, 5 ans, 10? C'est à toi de voir. Mais tout ça va conditionner ensuite ton projet, donc c'est important d'y penser. Est-ce que tu souhaites partir en nomade total ou juste en mode ce qu'on appelle slow travel avec des pauses longues? Ou est-ce que tu as pensé à la scolarité pour les enfants? Qu'est-ce que tu souhaites? Et aussi, surtout, un point important, quel revenu en déplacement? Ça, c'est très important d'y penser bien avant, ce qu'on aurait dû faire, nous, de notre côté. Je t'en parle un petit peu après. Bien entendu, tu ne peux pas penser à tout. Il restera toujours une part d'inconnu et c'est aussi ce qui fait la magie du voyage. Mais il faut quand même que les grandes lignes soient posées pour que tu puisses avoir une vision claire de ton voyage et partir sereinement. Étape numéro 3, faire le grand tri, matériel, administratif, émotionnel. L'étape numéro 3 te plonge dans du concret. Parce que préparer son départ pour une vie nomade en famille, c'est aussi faire de la place, que ce soit physiquement, mentalement et surtout logistiquement. Bien entendu, suivant ton projet, que tu partes une année ou 3 ou 5 ans, c'est sûr que le tri ne sera pas le même. Mais l'idée reste la même. Donc, il faudra désencombrer ta maison. Et là, je peux te dire par expérience qu'on n'imagine pas tout ce qu'on accumule. C'est fou. Donc, tu n'auras pas de place pour t'embarquer. Donc, peu importe ton moyen de transport. Alors, on réfléchit ce dont on a vraiment besoin, ou pas, parce que des fois, tu penses que tu auras besoin de quelque chose, mais en fait, non, tu ne l'utilises pas. Et on évite aussi d'écouter les enfants, parce qu'ils veulent tout garder, donc c'est compliqué. Alors, on trie, on vend, on donne, on recycle, et ça fait de la place. Et c'est quand tu commences à vraiment faire le grand tri que tu tombes sur des choses que tu as gardées en souvenir et qui te replonge dans des moments que tu as eus. C'est sympa, mais c'est peut-être pas le moment. Ensuite, il faudra t'attaquer à une partie qui est vraiment pas très fun. Donc, clôturer ou adapter tes démarches administratives. Sur le coup, c'était quand même plus sympa de feuilleter tes vieux cahiers d'école ou tes souvenirs que tu as gardés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résilier les abonnements, surtout celui de Métro Boulot Dodo Magazine. Tu n'en auras plus besoin. Prévenir l'école, vérifier les passeports, parce que si tu es devant la douane et que tu te retrouves avec ton passeport périmé, ça va être compliqué. Il faudra anticiper les vaccins suivant les endroits du monde où tu vas. Ne pas oublier de se renseigner sur l'assurance santé à l'étranger, parce qu'on ne sait jamais, suivant dans quel endroit du monde tu es, ça peut coûter cher. Et sinon aussi, un point très important, regarder si ton forfait mobile actuel sera utilisable à l'étranger parce que ça peut te coûter un bras et ça, on en a fait la douloureuse expérience. Je t'invite donc à aller voir notre article à ce propos intitulé Ces pièges financiers qui t'attendent en voyage et qui font mal. Tu le trouves bien entendu sur notre blog changerdevieetvoyager.com. Ensuite, il te faudra gérer l'émotionnel. Tu vas dire au revoir à ton job, à ta maison, à ta routine, à certains proches, à tes copains, à tes habitudes. A pas mal de choses en fait, mais tout cela est nécessaire pour construire une nouvelle vie. Dire au revoir à ton job, c'est probablement le plus facile, parce que si tu as décidé de partir, c'est que ton travail ne te comblait plus. Si tu veux un conseil d'ami, reste en bon terme avec ton ancien job. Ne fais pas comme cette pub, c'était pour le loto, je crois, où on voyait un gars en caleçon avec une tête de pigeon ou de poussins qui chantaient au revoir, président. Non, je te conseille pas de faire ça. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Pour ce qui est des proches, ça peut être un peu plus délicat, surtout pour les enfants. Mais rappelle-toi que malgré la distance, la magie d'Internet, comme on dit, te permet de rester en contact avec tous ces proches. Et on dit le proverbe loin des yeux, loin du cœur, mais ça ne s'applique pas quand on est quand on fait un voyage nomade comme ça et qu'on veut garder contact avec sa famille. Et aussi, il faut penser que sa famille ou ses proches peuvent venir vous voir, où que vous soyez, à l'autre bout du monde ou pas. On a eu déjà la famille qui est venue, on a eu des copains qui sont venus, c'est toujours un moment super et on les retrouve comme si on les avait quittés hier. Point numéro 4, préparer ses finances pour voyager sereinement. C'est l'un des freins les plus fréquents qu'on entend, on aimerait bien mais on n'a pas les moyens. Mais bon, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour vivre en nomade. Mais il faut bien sûr réfléchir à comment financer cette nouvelle vie, parce qu'il y a des sacrifices à faire et qu'on n'a rien sans rien. Si tu ne sais pas par où trop commencer, je peux te proposer quelques pistes concrètes, comme par exemple réduire les charges fixes, moins de loyer, moins d'électricité, arrêter ton abonnement à Netflix, arrêter de fumer, ou simplement supprimer ou diminuer tout ce qui n'est pas nécessaire. Il est important aussi d'économiser et de te constituer une épargne de sécurité. Essaye de mettre chaque mois le plus possible de côté pour pouvoir réaliser ton rêve. Pour ne pas partir à poil, financièrement parlant, hein, essaye de monétiser des compétences à distance, telles que devenir freelance ou offrir de l'enseignement, de la création de contenu, de la vente de formation, etc. Tout ce que tu pourrais faire à distance. Si tu souhaites aller un peu plus dans les détails, je te conseille d'aller voir mon article Gagner sa vie à distance, oui, mais comment, qui est sur le blog, bien sûr. Autre piste, louer ta maison ou la vendre. C'est ce que nous avons fait. Et enfin, tu peux te créer un revenu passif avant le départ. Mais qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est un revenu qui continue d'être généré même quand tu ne travailles pas activement dessus. Tel que louer sa maison, comme j'en ai parlé avant, ou tu peux louer ta voiture, un garage, ou sinon tu peux vendre un produit numérique simple, comme un e-book, ou des choses de ce genre. Créer un petit blog, ou vendre des photos et des vidéos existantes. Tout cela nécessite toutefois un effort important avant pour pouvoir en profiter après. Et là, tu me diras, c'est bien joli tous ces conseils, mais toi, comment tu as fait? Donc nous, on avait misé sur deux piliers. Mais c'était une erreur. Nous avions donc misé sur la location d'un bien immobilier qu'on avait retapé et de nos économies qu'on avait durement gagnées durant 10 ans. Dans le meilleur des mondes, ça aurait pu fonctionner, mais voilà, ça ne marche pas toujours comme on veut. Côté immobilier, on a fait des mauvais choix et on le paye encore aujourd'hui. Donc on pensait pouvoir gérer un petit revenu grâce au loyer, mais non, c'est plutôt un gouffre financier. Parce que ce n'est pas si simple que ça de gérer un bien immobilier à distance si on n'a pas quelqu'un de confiance sur place. Si tu as quelque chose à louer, je te conseille de trouver quelqu'un sur place en qui tu as confiance qui pourrait te le gérer pour toi. Et par contre, niveau économie, là, on avait cartonné, parce qu'on faisait vraiment très attention à notre budget et on arrivait à mettre une bonne somme de côté tous les mois pour nous constituer notre trésor de guerre. Nous avions suffisamment à économiser pour pouvoir nous acheter un beau bateau d'occasion. Mais ça, c'était avant le Covid de 2020 qui est venu s'immiscer dans l'équation et nous a plombé un peu le budget. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que vient faire ce foutu Covid là-dedans? Le Covid a été un déclencheur d'envie de partir pour beaucoup, et ce qui a fait que la demande a explosé littéralement, pour tout, pour le prix des vannes, des camping-cars et des bateaux. En plus, toutes les chaînes de production étaient à l'arrêt, donc plus aucun véhicule neuf, que ce soit van, camping-car ou bateau, ne sortait des usines. Et donc tous ceux qui voulaient s'acheter du neuf se sont rabattus sur de l'occasion. Et cela a fait que les prix ont pratiquement doublé sur la plupart des véhicules permettant de s'évader. Et donc nous avions calculé tout ça sur les prix avant Covid. Donc ça a plombé bien le budget vu qu'on a dû mettre plus d'argent que ce qui n'était prévu. Et du coup, on payait le bateau beaucoup trop cher, ça on le savait, mais on n'avait pas le choix, sinon on ne partait pas. On a pris le risque, car comme le dit le proverbe, prends le risque ou perds ta chance. Si c'était à refaire, nous referions probablement pas la même chose. Ce que nous ferions en plus, c'est de créer un revenu à distance avant de se lancer à l'aventure. Je t'invite d'ailleurs à consulter notre article « Pourquoi travailler à distance avant de partir voyager ?» et pas comme nous. Point numéro 5, choisir le bon support de voyage et s'y former. Que tu souhaites partir en van, en voilier, en camping-car, à vélo ou simplement en sac à dos, chaque mode de voyage a ses joies et ses contraintes. Pour nous, on a choisi le voilier, plus précisément le catamaran, parce que c'était un bon moyen de transport symbolisant la liberté, l'aventure et le déplacement lent au gré du vent. Mais bon, on ne s'est pas jeté à l'eau du jour au lendemain, enfin, pas sans gilet, du moins. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'on n'avait jamais fait de bateau avant d'avoir le projet. Donc que faut-il faire pour bien choisir son moyen de transport? Tout d'abord, il faut y réfléchir. Et ensuite, visiter, comparer et tester différents moyens de transport. Il faut bien entendu se former en navigation, mécanique, autonomie énergétique, médecine d'urgence, etc. Il faut aussi s'équiper en fonction des besoins réels et surtout prévoir du temps pour la prise en main. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un point important à ne pas oublier, c'est quel que soit le mode de transport, ce n'est pas ça qui fera le voyage. Vraiment, c'est ce que vous en ferez. Bien entendu, il est très important que le moyen corresponde à tout le monde au risque de faire capoter le projet. Je vais d'ailleurs te raconter une petite histoire à ce sujet. Avec Aurélia, nous étions partis quelques jours en Bretagne pour suivre un cours sur la médecine d'urgence en voyage. Et durant ce cours, on y avait rencontré Nicolas. Nicolas, la quarantaine, à peu près comme nous, il avait aussi le même projet que nous. Partir autour du monde, en famille, durant 5 ans. Donc lui, son projet à lui était mieux ficelé que le nôtre. Il avait déjà prévu toutes les grandes étapes, année après année, et pouvait nous les énumérer d'un trait. Il possédait déjà un bateau et l'avait suréquipé avec du matos vraiment au top. Donc il était prêt pour un tour du monde dans les meilleures conditions. Seulement voilà, au fil des discussions, alors que nous parlions de nos expériences durant les pauses, et nous, on lui racontait que nous avions loué différents bateaux chaque année pour tester les différentes grandeurs et les constructions. Nicolas nous apprend qu'il n'avait jamais navigué avec sa famille. Nous avons été tellement surpris, pour ne pas dire choqués de sa réponse, que on ne savait pas trop quoi dire. Comment peux-tu planifier un tel projet de voyage en voilier sur 5 ans avec ta famille alors que celle-ci n'a jamais mis un pied sur un bateau? En fait, ce qu'il avait monté, c'était son rêve à lui et non pas celui de la famille. Malgré cela, ils sont tout de même partis, mais ce qui devait arriver, arriva. Après les premières navigations, le projet s'arrêta net, le bateau mis en vente, et cela sonna probablement le glas du couple. Triste histoire, un rêve devenu cauchemar. Voilà un exemple parlant de pourquoi il faut construire cela en couple ou en famille, et pas chacun dans son coin. Point numéro 6, impliquer les enfants à chaque étape. On nous a dit parfois, mais les enfants vont être déracinés. Eh bien non. Ce qu'on a constaté, c'est que les enfants s'adaptent bien mieux que nous, à condition, bien sûr, qu'on les implique. Parle-leur de ce projet dès le début, réponds à leurs questions, intègre leurs envies, rassurez-les, crée des rituels, choix de la peluche embarquée, fabrication de carnet de voyage, recherche de destination en famille. Nous, ce que nous avions fait, nous avions mis une grande carte du monde accrochée dans la cuisine, et à chaque repas, nous en discutions. Des destinations où nous aimerions aller et les différents pays qu'on allait traverser. Et pour l'école alors? Bon, l'école de la vie, d'accord, mais ça ne suffit pas. Il y a pour cela 1000 options. L'IEF, ce qui est l'abréviation de instruction en famille, le CNED, les écoles locales, les cours en ligne, là encore c'est à adapter à vos besoins. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre article « Scolarité en voyage, comment gérer » que Aurélia a concocté pour vous. Et pour finir, le point numéro 7, se lancer même imparfaitement. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de planifier et y aller. Parce que oui, tu auras encore peur. Oui, tout ne sera pas prêt. Mais l'appel de la liberté, lui, ne va pas s'éteindre. On s'est souvent dit, on aurait dû attendre un peu plus. Et maintenant, on se dit surtout, heureusement qu'on n'a pas attendu plus longtemps. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce départ n'est pas une fin, mais un début. Une ouverture vers une vie choisie, vers des rencontres, vers des galères rigolotes, ou non. Et des souvenirs inoubliables. Donc fini les chichis, il est temps de partir, et de faire pleurer mamie. Voilà, tu sais tout, et vu que tu es là, c'est que tu es sur la bonne voie. Pour aller plus loin, je te conseille de télécharger notre guide bonus que tu trouveras sur notre blog, qui est gratuit et qui va t'apporter beaucoup d'informations pour ton projet. Donc n'hésite pas à t'abonner au blog, ainsi qu'à notre page Facebook « Changer de vie et voyager ». Et c'est pas tout. Toujours sur Facebook, on a créé un groupe qui s'appelle Vivre Autrement, Voyage, Liberté, Famille, afin que toi aussi tu puisses partager tes peurs, tes projets ou simplement tes voyages avec nous et qu'on puisse en discuter. Merci de m'avoir écouté, c'était Jonathan du blog Changer de vie et voyager. J'espère que tous ces conseils te seront utiles et te dis à bientôt. Ciao !